Cette semaine, un livre qui nous propose des repères pour des questions difficiles sur l'origine de la matière, l'évolution de l'homme, sur la vie et sur la pensée, avec un philosophe, Michel Lefeuvre, qui vient d'écrire son dernier livre qui s'appelle « Science et philosophie, panorama 1945-2012 ». Nous l'avons interrogé et nous lui avons demandé quelles étaient les motivations de ce livre.
Au fond, il s'agit d'une très longue interrogation. Très jeune, je me suis posé la question de l'existence de Dieu. Je devais avoir 12-13 ans à ce moment-là, vous voyez, c'est très, très ancien. Et c'est cette interrogation qui m'a d'abord orienté vers des études religieuses, puis ensuite, progressivement, vers la philosophie, les sciences, et plus spécialement vers la biologie et la neurobiologie. Si bien qu'arrivé à l'âge du bilan, j'ai voulu faire le point en écrivant ce livre.
Pouvez-vous nous dire quel est l'axe de votre livre ?
C'est la finalité. Est-ce que tout ce qui s'est passé dans la nature, on sait que ça a évolué, est-ce que c'est le hasard, comme on le prétend encore couramment, ou au contraire, est-ce qu'il y a une ligne directrice, une finalité ?
Et du coup, vous avez divisé votre travail en 3 sections et une première section qui traite de l'origine du cosmos, où vous parlez de la naissance de l'idée du Big Bang en 1963, où finalement vous dites « le monde a eu un commencement ». Vous pouvez nous expliquer ?
Oui, c'est-à-dire jusqu'à cette époque, eh bien, j'étais tributaire de la lecture de Kant et Kant, à propos de la naissance du monde, dit ceci, où le monde a un commencement dans le temps et il est limité dans l'espace, c'est sa thèse, ou au contraire, l'antithèse, il n'a ni commencement ni dans le temps et il n'est pas limité dans l'espace. Et c'est seulement alors en 1963 qu'un véritable coup d'État intervient. Deux ingénieurs qui font des relevés sur le mont Palomar découvrent un bruitage dans leur appareil qui vient de tous les côtés à la fois et dont il est impossible de se débarrasser. Et c'est à partir de ce bruitage, à partir de là, que va naître l'idée du Big Bang. Le monde a eu un commencement. Et c'est à partir de là que je me pose la question suivante. Le monde a-t-il pu se créer lui-même comme par une sorte de génération spontanée ? Cette question est aussi vieille que la philosophie. Elle est connue sous le nom d'argument ontologique par les spécialistes. Alors, à cet argument ontologique, dénué en réalité de toute valeur, je pose ce que l'on entend par principe anthropique. Tout a été calculé pour lui dans l'univers, au millimètre près, pourrait-on dire, pour qu'un jour puisse apparaître l'homme.
Et vous continuez justement votre livre avec cette deuxième section sur l'origine de la vie et une question particulière. Est-ce qu'on a encore aujourd'hui la prétention d'expliquer la vie ?
Non, on n'a pas cette prétention, mais malgré tout, ce qu'on peut dire sur l'origine de la vie, on est incapable de la créer en laboratoire. J'insiste sur ce fait parce que souvent, dans des réclames, on laisse penser le contraire. La génétique ne nous dit rien sur la manière dont on peut se faire les assemblages pour que puisse apparaître une première cellule vivante, si simple soit-elle en tant que cellule.
Tout cela a-t-il un sens et une finalité ?
Oui, exactement, ça a un sens et une finalité. Une finalité qui remonte vers l'homme. Une finalité dont l'objectif est de l'homme fait à l'image de Dieu. Alors, j'attache une importance considérable à ce qu'on appelle les transcendentaux, le vrai, le bien et le beau. Il y a une brisure, si vous voulez, une coupure avec l'animalité. La recherche du vrai, bien, il n'y a que l'homme quoi, qui cherche le vrai en tant que tel. L'homme est capable de risquer sa vie matérielle, biologique, pour un idéal plus élevé que la biologie. Et c'est par là que l'homme ressemble à Dieu.